Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Jérôme Florin.
Il est 7h43 sur RTL, très bonne journée. Alba Ventura, vous recevez le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti.
Bonjour Éric Dupond-Moretti.
Bonjour madame.
Vous êtes en train de finaliser avec votre collègue le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la loi sur le séparatisme pour lutter contre l'islamisme radical. D'ailleurs, permettez-moi, mais vous venez encore de changer le nom de cette loi, c'est-à-dire que désormais il faut dire projet de loi confortant les principes républicains. Qu'est-ce que vous n'assumez pas ?
On assume tout. C'est d'abord une
Pourquoi
loi
on change lutter... encore de nom.
Non, c'est d'abord une loi pour lutter contre le séparatisme, soyons clairs.
D'accord. Ce projet de loi a été enrichi à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Ça veut dire, monsieur le ministre, que nous n'avions pas suffisamment d'outils pour lutter contre l'islamisme radical ?
Non, ça veut dire que le droit évolue en fonction de ce qui s'offre à nous. Et malheureusement, ce qui s'offre à nous, c'est un attentat en l'occurrence. Donc la méthode,
C'était
la méthodologie...
C'était pas nouveau, pardon.
La méthodologie, je vais vous dire. On a regardé factuellement ce qu'il y avait, et on a dit, mais à partir de quand aurait-on pu mieux judiciariser et plus vite ? Et donc, on a comblé les trous. C'est chaque attentat qui, malheureusement, et je le dis sans cynisme, nous amène une expérience dont il faut tirer le bénéfice en termes d'efficacité de répression.
Alors, il y a parmi les nouveaux délits qui vont être créés, un délit de mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit de mettre un terme à la divulgation d'éléments de la vie privée qui permettrait d'identifier ou de localiser une potentielle victime, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Alors, décrivez-nous comment on fait pour lutter.
Si vous m'y autorisez, je vais donner un exemple. Je poste sur les réseaux sociaux. Je me suis fait contrôler par un keuf ce matin. Sa fille est à l'école Paul-Éluard de telle ville. Bon. À bon entendeur. Ça devient une infraction. Et ça n'existait pas. Et ça, nous l'avons extrait des éléments factuels dans l'affaire... dramatique du professeur Samuel Paty. Ça, ce sera puni de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Et ça s'appelle le délit de mise en danger par divulgation d'informations relatives à la vie privée.
Mais si nous avions disposé de ce délit de la mise en danger de la vie d'autrui, est-ce qu'on aurait pu éviter la mort du professeur Paty ?
On aurait pu judiciariser plus vite, c'est une certitude.
C'est-à-dire que immédiatement, on aurait pu arrêter les personnes qui diffusaient le nom du collège, l'appel à la mobilisation, par exemple, contre
c'est ça,
le professeur.
Bien sûr. Et chaque crime est décortiqué ensuite dans ses éléments factuels, et il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Ça s'appelle malheureusement l'expérience.
Il y a un autre délit que vous créez, c'est celui de protection des agents publics contre les pressions séparatistes. Alors, de quoi s'agit-il ?
C'est celui qui va intimider la dame qui tient la piscine municipale et qui lui dit « Désormais, la mixité, c'est interdit. Sinon, il vous arrivera. » Ce sont des menaces, c'est l'intimidation contre des agents publics pour que... ils ne mettent plus en valeur ce qui sont les valeurs de la République. Voilà. Et toutes ces valeurs séparatistes, nous entendons les lutter. Cette loi, au fond, c'est « ne touche pas à mon prof, ne touche pas aux valeurs de la République ». Et ça, c'est une infraction qui est punie, madame, de 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende, et ça s'appelle le délit de protection des agents contre les pression de type séparatiste. Il y a tous les jours dans notre pays des gens qui sont les artisans de notre République et qui sont menacés dans des conditions inadmissibles.
Et par exemple, les médecins, est-ce que cela concerne les pressions à l'hôpital de la part de ceux qui refusent que leur femme soit soignée par un médecin homme ?
Tout ce qui est artisan de la République, médecin public, bien sûr, enseignant, dame de la piscine, les élus, c'est déjà prévu. Oui. Enfin voilà, tous ceux qui
à la
sont...
À RATP, tiens.
Mais bien sûr.
Celui qui refuse qu'une femme s'assoie derrière lui ou refuse de serrer la main.
Madame, tous les...
Mais ça voudra dire que je peux porter plainte contre ça ?
Mais bien sûr. Il s'agit, madame, de redire de façon claire, nette et précise... que tous ceux qui s'en prennent aux acteurs de la République, dans d'autres valeurs que les nôtres, et avec bien sûr des intimidations, ceux-là se rendront coupables de cette infraction.
Vous souhaitez aussi, Éric Dupond-Moretti, lutter contre la haine en ligne.
Oui.
Dans le cas de Samuel Paty, il s'est agi d'harcèlement en ligne, c'est-à-dire des vidéos qui appelaient à la mobilisation contre l'enseignant qui, je le répète, donnait son nom, donnait l'adresse du collège. C'est du contenu haineux, c'est du contenu terroriste. Est-ce que ça tient en droit ?
D'abord, madame, la haine, elle se décline de façon différente pour être réprimée par la loi pénale. C'est évidemment la haine raciale, c'est la haine sexiste, c'est la haine homophobe, il faut le rappeler. Nous avons fait deux choses. D'abord, nous avons créé une plateforme. J'ai créé une plateforme au sein du parquet de Paris destinée à accueillir les plaintes qui auront fait l'objet d'une transmission par Pharos. Mm-hmm. En clair, vous racontez...
Pharos en deux mots ?
Pharos, c'est la plateforme police, ministère de l'Intérieur, qui regarde... qui détecte et qui regarde ce qui circule sur les réseaux sociaux. Vous balancez sur les réseaux sociaux des propos haineux, ils sont identifiés par Pharos et ils seront traités par un pôle spécialisé au sein du parquet de Paris. Ça, c'est de la procédure pénale et c'est de l'efficacité. Maintenant, sur le fond, celui qui diffuse sur son portable, se pensant dans l'impunité des propos haineux, je veux qu'il comparaisse immédiatement devant la juridiction correctionnelle dans le cadre de ce qu'on appelle une comparution immédiate. Mmh. Or, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Pourquoi ça n'est pas possible ? Parce que les textes qui répriment cela sont inscrits dans une vieille loi que vous connaissez bien, qui est la loi de 1881, qui protège les journalistes. Or, aujourd'hui, elle ne protège pas que les journalistes, elle protège, pardonnez-moi, toutes ces canailles qui diffusent la haine comme cela, et le venin de la haine sur les réseaux sociaux. Donc j'ai voulu distinguer les journalistes que j'entends bien sûr mettre de côté, et il faut qu'ils soient encore protégés par cette loi qui d'ailleurs a été faite pour eux, et j'entends exclure de cette loi tous ceux qui se comportent de cette façon. J'ai d'ailleurs consulté pendant plus de deux jours tous les patrons de presse, tous les syndicats de journalistes. J'entends évidemment protéger la presse, bien sûr, et sa liberté d'expression, mais j'entends que tous ceux qui diffusent la haine soient immédiatement déférés devant la justice.
Le président Macron souhaitait le retrait de contenu haineux en une heure. Ça, on n'y est pas.
On n'y est pas, mais on y travaille ardemment, madame. Ça concerne l'Europe. Et j'ai réuni d'ailleurs, peu de temps après les attentats, tous mes homologues européens, qui naturellement sont solidaires. Vous savez que l'Autriche a été frappé, durement frappé également. J'ai rencontré le président Breton, j'étais en visio avec le président Renders, et nous voulons que sur le terrain européen, ces choses progressent. Car aujourd'hui, les diffuseurs ne peuvent pas être responsables des contenus, et nous souhaitons que cela change. Et je travaille quotidiennement avec la députée Avia, vous savez qu'elle a beaucoup travaillé sur la question, pour régler cette question le plus vite possible.
Abordons la question des sortants de prison, si vous voulez bien, parce que selon les chiffres du journal Le Figaro, cette année, 63 détenus islamistes ont été libérés, une vingtaine doivent quitter la détention d'ici la fin de l'année, puis ce sera 70 en 2021, 50 en 2022, 30 en 2023. Le projet de loi, Éric Dupond-Moretti, qui mettait en place les mesures de sûreté, a été retoqué en août par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous revenez à la charge ?
Oui, bien sûr.
Quand ?
Ah, mais là, on est en train d'y travailler avec Mme Braun-Pivet. Le Conseil constitutionnel a censuré cette loi, il a fait son travail, je n'ai rien à en dire, et nous allons y revenir de façon à avoir un outil efficace, et bien sûr constitutionnel. Et sur ce terrain, je dois vous dire, et je dois dire aux Français qui nous écoutent, et qui ne le savent pas, que tous ceux qui sortent de prison quand ils ont été condamnés pour des faits terroristes, sont suivis dès la première minute de liberté. Ils sont à la fois judiciairement suivis, par les juges de l'application des peines antiterroristes. Et je les ai rencontrés cette semaine pour améliorer encore le dispositif. Et ils sont également suivis dans le cadre de ce que l'on appelle les MICAS, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. C'est une surveillance policière des renseignements.
Est-ce que ça peut être rétroactif ? Est-ce que ceux qui sont déjà sortis de prison, avec votre nouvelle loi, excusez-moi...
Mais ceux qui sont déjà sortis de prison sont déjà surveillés dans les conditions que j'évoque.
D'accord.
En revanche, nous allons bien sûr travailler à nouveau sur le projet, sur la proposition de loi Braun-Pivet, pour qu'elle soit, je dis, constitutionnelle, conforme à notre constitution, et c'est bien la moindre des choses, et qu'elle soit efficace. Ce sont des mesures de sûreté supplémentaires.
La décision du Conseil constitutionnel, elle a été mal appréciée par les Français qui ne veulent plus d'angélisme.
C'est pas de l'angélisme, c'est
face
du droit.
Face à l'islamisme radical.
Non, mais il faut être clair sur ces questions. Et il faut faire très très attention. Ça n'est pas de l'angélisme, c'est du droit. Et on a besoin de droit. Dans une démocratie, on a besoin de droit. Donc le Conseil constitutionnel dit les choses. Moi, j'ai soutenu cette proposition de loi. Je peux pas vous dire que ça m'a fait plaisir. Mais pour autant, je m'incline. Parce qu'il est normal que les lois soient conformes à la Constitution. C'est pas de l'angélisme, c'est du droit. Et quand il n'y a plus de droit, alors on bascule de la démocratie vers la dictature.
Restons en prison, si vous le voulez bien. Hier soir, sur RTL, au micro de Thomas Soto, la contrôleuse générale des prisons, Dominique Simonneau, vous a interpellé. Elle dit qu'il faut libérer des prisonniers, parce que d'abord, les conditions sanitaires en prison sont indignes, et il y a de forts risques de contamination au coronavirus. Elle dit qu'il y a 80 clusters dans les prisons, c'est vrai ?
Mais les clusters, c'est 3 personnes. Donc ça fait en réalité 0,03% des personnes détenues. Et des précautions sanitaires sont prises. Je vais rencontrer Madame Dominique Simonneau, que je connais bien par ailleurs, je vais d'abord lui répondre, je vais la rencontrer, nous allons évoquer ces choses. Et à propos de libération, je tiens à vous dire la chose suivante. 13 000 détenus, dit-on, ont été libérés. D'abord, il ne s'agit pas de criminels, il ne s'agit pas
par
de violeurs.
Par votre prédécesseur,
non,
Nicole Belloubet.
Non, mais c'est pas vrai. Alors, on va redire les choses, parce que j'ai été, moi, attaqué là-dessus. Ça n'est pas une disposition qui est la mienne, mais j'ai été attaqué par Mme Le Pen là-dessus. Alors, on va dire les choses. 13 000, c'est quoi ? C'est 6 000 qui ne sont pas rentrés, et 6 000 qui ont été libérés, mais qui, de toute façon, l'auraient été parce qu'ils étaient en fin de peine, à la fin du confinement. C'est ça la réalité. Mais ça n'est pas à l'ordre du jour.
Une dernière question. Quand Ségolène Royal critique le président en disant comprendre que certains se sentent insultés par les caricatures de Mahomet, est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire ?
Ah mais je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire. J'ai dit moi-même en d'autres temps que j'étais choqué quand dans Charlie on caricaturait Sœur Emmanuelle. Mais pour autant, il y a une solution toute simple, c'est de tourner la page ou de ne pas acheter le journal. Mais pour le reste, je suis fondamentalement, viscéralement attaché à la liberté d'expression et les caricatures, c'est une des formes de la liberté d'expression.
Merci Éric Dupond-Moretti. À tout à l'heure avec les auditeurs.
Merci beaucoup. Et puisque Monsieur le Ministre, vous avez le droit d'aller prendre un café ou deux.
Merci beaucoup.
Voire trois. Et puis vous revenez nous voir à 8h15.